Alors, parcours Nouvelle Alliance, séance étape 16. Aujourd'hui, on va voir donc de manière plus spécifique le sacrement de l'Eucharistie. Est-ce qu'il y en a qui savent ce que ça veut dire Eucharistie déjà? Eucharistie, si vous dites Eucharistie, vous pensez à quoi? Christ, ouais. Ouais.
Cœur.
Cœur, ouais. Christ, cœur.
Corps du Christ.
Corps du Christ. Bon, en vrai, non mais ce que vous dites, ça a vraiment du sens par rapport au mystère de l'Eucharistie. Mais le mot Eucharistie, ça veut dire remercier. Donc en fait, quand on dit le sacrement de l'Eucharistie, on va parler du sacrement de l'Eucharistie. Eh ben, on parle du sacrement où on remercie Dieu, et donc l'idée c'est de voir pourquoi est-ce qu'on remercie Dieu. Sachant que quand on parle de sacrement de l'Eucharistie, en fait il a plein de noms. Parfois on l'appelle la messe, parfois on l'appelle le saint sacrifice, parfois on l'appelle le banquet céleste. Vous voyez, il y a plein de noms qui signifient chacun une réalité, quelque chose, un aspect du mystère de l'Eucharistie. Mais comme c'est un grand mystère, déjà en une heure je n'aurai pas le temps de tout vous dire. Mais sachez que du coup, il y a plusieurs noms qui signifient des choses un petit peu différentes du même mystère, pris sous différents points de vue. Ok ? Alors, souvent, on parle de l'Eucharistie parmi les sept sacrements comme la source et le sommet de toute la vie chrétienne. La source et le sommet de la vie chrétienne. Donc, ça nous dit bien un peu l'importance de ce mystère. C'est que si c'est la source, c'est de là que toute notre vie chrétienne part. Et si c'est le sommet, c'est aussi vers ça que l'on tend. Okay, c'est peut-être une expression que vous entendrez de temps en temps, la source et les sommets de la vie chrétienne. Mais donc l'idée, nous, aujourd'hui, c'est de pouvoir déployer un peu cette question. Alors, vous vous souvenez, la dernière fois, on avait fait le petit jeu. Là, c'est le dernier sacrement de l'initiation chrétienne. Okay, donc dans les trois sacrements de l'initiation chrétienne, donc pour entrer pleinement dans la vie chrétienne, il y a le baptême, la confirmation et le sacrement de l'Eucharistie. Le baptême, on le reçoit combien de fois?
Une fois.
La confirmation, on la reçoit combien de fois?
Une fois.
L'Eucharistie, on la reçoit combien de fois?
Tous les jours.
Donc, vous voyez, c'est important. Je fais une petite parenthèse sur ça. C'est que, en fait, quand on parle de la première communion, en fait, la première communion, ce n'est pas un sacrement. C'est l'Eucharistie qui est un sacrement. Et à chaque fois que l'on communie, on participe à ce sacrement. Donc la première communion, ça signifie juste le jour où pour la première fois vous allez communier. Mais voyez, par exemple, il y en a qui recevront leur première communion, qui vivront leur première communion dans quelques semaines. Il y a rien de c'est pas comme le baptême où vous avez des choses à dire, il y a plein de rites. Là, c'est simplement, parfois ce qu'on fait, c'est pour mettre un peu en valeur le fait que c'est la première communion, on va faire communier en premier les personnes qui vont recevoir la première communion. Et on va leur proposer de communier au corps et au sang du Christ. Ici, à Saint-Dié, je ne sais pas comment ils font. Mais vous voyez, c'est tout. En fait, en soi, vous pourriez très bien, pour votre première communion, vous avancer dans la file avec tout le monde et faire votre première communion à ce moment-là. Et parfois, on entend des gens qui disent « Oui, vous savez, j'ai même fait ma deuxième communion, ma troisième. » J'espère qu'un jour, vous pourrez dire « J'ai fait ma 200e communion aujourd'hui » ou je ne sais pas quoi. Donc voilà, donc en fait, c'est important. C'est un sacrement, vous voyez, pour le coup, qu'on réitère et qui est là pour nous aider à vivre notre vie chrétienne. Et le cœur de l'Eucharistie, c'est quoi? C'est de dire que Jésus est mort et ressuscité pour nous donner la vie. Et cette vie que l'on a reçue au baptême, l'Esprit Saint qui nous a été redonné de manière plus particulière à la confirmation, et ben Dieu, par le sacrement de l'Eucharistie, nous donne de creuser toujours plus cette vie divine en nous, parce que nous communions à son corps. Ça, c'est ce que je vais essayer de développer un petit peu. D'abord, ce que je vous ai lu là, en introduction, dans le chapitre 22 de Luc, c'est un des récits de ce qu'on appelle l'institution de l'Eucharistie. Vous savez que la Pâque, c'est un repas qui, c'est une fête qui, notamment, était marquée par un repas chez les Juifs, qu'on appelle le Seder Pascal, avec toute une liturgie particulière. Et ce qu'on a entendu là, quand Jésus dit à ses disciples, allez dans la ville, vous allez croiser quelqu'un avec une cruche, vous allez lui demander où est-ce que je peux aller faire la Pâque avec mes disciples. Jésus ne parle pas d'une messe. Il n'est pas en train de dire où est-ce que je vais célébrer la messe avec mes disciples. Mais Jésus est juif, ses disciples sont juifs, et donc ils vont fêter ensemble le Seder Pascal. Le Seder Pascal, c'est quoi? C'est faire mémoire de la libération du peuple par Dieu. Le peuple est esclave, le peuple est mort. C'est ça que ça veut dire l'esclavage, c'est ce qu'on avait vu ensemble. Le peuple est esclave, donc égal, le peuple est mort. Et la fête de la Pâque célèbre le moment où Dieu va donner la vie à son peuple en le libérant de l'esclavage. Et Jésus va choisir ce même truc pour instituer l'Eucharistie, c'est-à-dire pour la première fois dire, en fait, celui qui va vraiment vous donner la vie alors que vous êtes encore esclave, c'est maintenant à travers la Pâque nouvelle, c'est-à-dire le don que je fais de mon corps et de mon sang pour vous donner la vie. Et donc Jésus va avoir cette parole à un moment, alors que normalement le père de famille devait prendre le pain, le rompre et donner à ses enfants, à toute la famille qui était là, en disant « on prend ce pain en mémoire de l'Alliance ». Vous voyez, Jésus va transformer cette parole, il va faire le même geste, mais il va dire « prenez, ceci est mon corps livré pour vous ». Donc Jésus va faire comprendre à ses disciples que, en fait, la vraie libération passe par le don qu'il fait de lui-même par amour pour nous. Ça va ? Donc c'est, en fait, c'est ce qu'on vit à chaque Eucharistie, parce qu'après il dit faites ceci en mémoire de moi. Quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, il ne dit pas simplement vous referez chaque dimanche une petite scénette. Vous essayez au maximum de coller à ce qu'on a fait. Donc si vous pouvez mettre une table en rond avec 12 personnes, plus Jésus, quelqu'un qui joue Jésus, et essayer de refaire un peu le truc. En fait, ce n'est pas ça l'Eucharistie. Quand Jésus dit faites ceci en mémoire de moi, il ne leur dit pas en fait faites comme ce que j'ai fait, histoire que vous vous souveniez qu'un jour j'ai donné ma vie pour vous et que ouais, qu'est-ce qu'on aurait aimé être là à ce moment-là, mais bon, nous tant pis, on arrive 2000 ans après et donc on peut que revoir un spectacle de ça. C'est pas ce que Jésus dit. Ce que Jésus confie à ses apôtres, c'est ce qu'on appelle un mémorial, c'est-à-dire le fait de rendre présent ce qui a été vécu. Quand Jésus dit à ses apôtres « Faites cela en mémoire de moi », et on le voit directement dans les Actes des apôtres et dans les lettres de Paul, c'était très clair pour les premiers disciples, c'est que le premier truc qu'ils ont tous refait, c'est de refaire cette même scène avec ces mêmes... Alors au début, ils n'utilisaient pas les mêmes paroles, mais la conscience que quand ils se retrouvaient entre chrétiens pour prier, qu'ils partageaient le pain et qu'ils y communiaient tous, c'était Jésus lui-même qui était présent à ce moment-là et qui continue de leur donner la vie. Et je ne sais pas si ça vous a marqué pendant le temps de Pâques, là. On a entendu un évangile un peu long au début, qui s'appelle l'évangile, l'évangile des disciples d'Emmaüs. Les disciples d'Emmaüs, ils ne reconnaissent pas Jésus. Ils se rendent tout tristes parce que Jésus est mort. Ils sont en train de marcher vers leur village, Emmaüs. Jésus leur apparaît, ils ne le reconnaissent pas. Ils marchent, ils leur expliquent les Écritures. Donc là, ils commencent à se dire, ah oui, ok, en fait, il y a un vrai sens. Donc, effectivement, le Christ devait mourir. Jésus leur explique tout ça. Et à un moment, il fait genre qu'il continue. Eux, ils disent, reste avec nous parce que le soir arrive. Et donc, ils lui proposent de rester dîner. Et en fait, pendant le dîner, Jésus refait ce geste. On nous dit simplement, Jésus bénit le pain et il fait la fraction, ce qu'on appelle la fraction du pain. Donc, il rompt le pain. Et à ce moment-là, on nous dit que les yeux des disciples s'ouvrirent et ils reconnurent le Seigneur. Vous voyez, donc en fait, ils avaient beau marcher avec Jésus, que Jésus leur explique les Écritures, ils ne le reconnaissent pas. Et à quel signe ils vont reconnaître que c'est vraiment Jésus ? Au moment où il va refaire la même chose que ce qu'il a fait avec ses disciples. Et donc ça, vous voyez, c'est le cœur de la foi chrétienne dans l'Eucharistie. C'est pour ça que c'est la source et le sommet de la vie chrétienne, parce que c'est le moment où les chrétiens se rassemblent. Pourquoi ? Parce que Dieu vient au milieu d'eux. Ça va sur ça ? Ça, c'est hyper important de comprendre. C'est peut-être une des grandes différences, notamment avec les protestants, c'est que les protestants, quand ils entendent « faites ceci en mémoire de moi », eh ben pour eux, le moment où on va se retrouver, alors ça dépend un peu des églises protestantes, mais le moment où on va se retrouver pour vivre ensemble les réunions dominicales, en fait, on va faire mémoire, on va se souvenir de ce que Dieu a fait. Mais la grande différence entre catholiques et protestants, et là nous on a la même foi que les orthodoxes notamment, c'est qu'on croit qu'à ce moment-là, Dieu est réellement présent, ce n'est pas simplement un souvenir. Donc là, ça nous amène au deuxième point qui est le fait que ce soit la présence réelle. Quand on utilise ce terme, les chrétiens, les catholiques, on croit que Dieu est réellement présent dans le morceau de pain qu'on voit à la messe. C'est pas simple à comprendre, parce que, vous voyez, l'aspect extérieur ne change pas. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu ce qu'on appelle des miracles eucharistiques. Il faut aller voir, notamment, il y a Saint Carlo Acutis, dont on parle beaucoup, qui est un jeune qui a été canonisé récemment. Bon, Saint Carlos Acutis, par exemple, lui, ce qu'il a fait, c'était un passionné, on l'appelle le geek du paradis, c'était un passionné d'informatique, et il a recensé tous les miracles eucharistiques qu'il y avait eu dans le monde. Et il a fait une exposition. N'hésitez pas à aller voir sur le site internet qu'il a fait. Ça aide vraiment au niveau de la foi. Notamment, il y a un qui m'a toujours beaucoup marqué, c'est un prêtre qui doutait, au moment où il célébrait la messe, il doutait de la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Donc, imaginez le prêtre qui est en train de célébrer la messe et qui... Enfin, je dis ça, moi, c'est vrai que ça m'arrive parfois. J'élève l'Eucharistie, je me dis, est-ce que c'est vraiment Jésus qui est là, quoi? Vous voyez, parfois, c'est une question qu'on pose. Est-ce que, comme prêtre ou comme catho, je ne sais pas, plus investi, est-ce que vous avez des doutes ou... En fait, je ne pense pas que ce soit anormal d'avoir des doutes. Moi, j'en ai. Mais la question, c'est où est-ce que je mets ma foi, quoi. Et souvent, quand je me dis ça, je me dis non, mais oui, bien sûr qu'il est là. Mais vous voyez, et en fait, ce prêtre-là, alors moi, ça ne m'est pas du coup arrivé, mais douter la présence de Jésus dans l'Eucharistie. Et en fait, l'hostie, il y a un morceau de chair qui est apparu sur l'hostie. Alors, j'en vois qui font des têtes bizarres. Vous avez raison. Mais c'est d'ailleurs pour ça, en fait, que je pense que Jésus, dans sa grande bonté, ne change pas l'aspect extérieur aussi de l'Eucharistie, parce que c'est quand même plus simple à manger un morceau de pain que si on avait conscience de ce que c'était réellement. Mais vous voyez, la question, donc, c'est que Jésus se donne réellement à nous dans la présence eucharistique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à ce moment-là, pendant la messe, on se met à genoux, quand on peut. Si on n'a pas de problème de genoux, on n'a pas de problème de santé. C'est aussi pour ça, par exemple, que certains chrétiens, et nous, juste à côté, on a une chapelle d'adoration, vont vivre des temps d'adoration eucharistique. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, c'est un sorte de grand soleil dans lequel on a une hostie consacrée. Et donc, en fait, des gens vont prier devant Jésus présent dans le Saint-Sacrement. En fait, ils ne prient pas devant un bout de pain. C'est parce que dans la foi, le chrétien reconnaît que c'est Jésus qui est là, et donc c'est un temps de prière de cœur à cœur, de face à face avec Jésus. Ça va sur ça? Donc quand on parle de présence réelle, c'est pas une blague, c'est pas une façon de parler, quoi. C'est vrai, c'est une présence réelle. C'est réellement Dieu qui est présent. Et ce qui est fou, c'est que Jésus, plusieurs fois dans l'évangile, notamment de Jean, à chaque fois dit ce pourquoi il est venu. Il nous raconte qu'il est là parce qu'il veut demeurer en nous et il veut que nous demeurions en lui. Et voyez, le cœur de l'Eucharistie, c'est vraiment ça. C'est ce mystère d'un Dieu qui nous aime tellement qu'il veut demeurer en nous, et par ça, il se fait tout petit dans un morceau de pain. Mais, attention, et ceux qui étaient là à la messe de l'Ascension m'ont entendu parler de ça, le but de la messe, le but de l'Eucharistie, ce n'est pas la présence réelle de Jésus. On ne va pas à la messe pour contempler Jésus qui, dans un morceau de pain, change ce morceau de pain pour être sa présence réelle. Le but de l'Eucharistie, c'est que ceux qui sont là, l'assemblée qui est là, le peuple des baptisés, qu'ils communient ou pas d'ailleurs, c'est pour ça que parmi vous, beaucoup sont baptisés, n'ont pas fait leur première communion, alors ne peuvent pas communier. Et vous voyez, ce que je dis là vaut pour tous. D'accord ? On est tous là pour former le corps du Christ, et c'est pour ça qu'il y a la présence réelle. C'est parce qu'à travers le don total que Dieu fait à son Église, il nous donne le cadeau, la grâce de former plus qu'un seul corps. Il y a un père de l'Église qui avait cette magnifique formule. Il dit « Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu ». Je vous l'avais cité la dernière fois quand on avait parlé de l'incarnation. Mais vous voyez, le but de la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, c'est que vous, quand vous repartiez, vous soyez la présence réelle de Jésus dans le monde. Je ne sais pas si vous saisissez ce que je suis en train de vous dire. Si Jésus se rend réellement présent pendant la messe, ce n'est pas pour qu'on assiste à un miracle en disant « c'est stylé » alors qu'en plus on ne voit rien, donc c'est vraiment un acte de foi qu'on pose, mais c'est parce que le désir de Dieu, c'est que nous soyons le temple de sa présence dans le monde. Et c'est pour ça qu'on parle de l'Église comme le corps du Christ. Vous voyez, on parle de corps de Jésus dans l'Eucharistie, on parle de corps de Jésus dans l'Église. C'est parce que l'Église, c'est le peuple rassemblé autour du corps du Christ, qui communie au même corps, que ensemble nous formons le corps du Christ. J'espère ne pas vous perdre. Non, mais vous aurez sûrement le temps de méditer sur ça, mais honnêtement, franchement, c'est le mystère le plus beau de la foi chrétienne. Et plein de chrétiens passent complètement à côté. Parce que du coup, la messe, ça devient le moment où, en fait, on se rend compte. Parce que vous voyez, c'est toujours une tension entre, en fait, contempler la beauté de ce qu'est la présence réelle. Contempler ce qu'est la présence réelle. Donc, vous voyez, de se dire que Dieu lui-même vient et donc il nous pousse à une attitude d'adoration, même parfois un peu de distance par rapport à Dieu qui lui-même est présent. Donc, contempler que c'est Dieu vraiment qui est là. Et en même temps, il faut tenir devant cette contemplation de celui qui est immense et qui est tout, tout petit présent dans le pain, qu'en même temps, s'il est là, c'est pour qu'on s'en approche et pour que nous soyons le corps du Christ. Donc c'est pour nous. Il faut tenir ces deux choses. Parfois, il y en a qui vont s'arrêter juste à la première et qui vont dire, vous voyez, le moment, la messe, c'est le moment où je contemple Dieu qui est présent. Et vont oublier qu'en fait, si Dieu est présent, c'est pour qu'eux-mêmes deviennent le temple de Dieu. Et il y en a, ils vont juste se concentrer sur « on est le corps du Christ ». Donc c'est important qu'on vive un temps avec mes frères et sœurs qui sont autour de moi. On prie ensemble, c'est trop bien. Mais du coup, on oublie un peu que celui qui est devant nous, c'est Dieu réellement présent. Quand je vois vos têtes, j'ai tellement peur de vous perdre, hein, peu cher. Désolé. Hein. Mais donc, retenez vraiment présence réelle. Pourquoi ? Pour que nous formions le corps du Christ. D'accord ? Et c'est quoi former le corps du Christ ? C'est du coup ensuite aimer comme Dieu aime. C'est être sa présence dans le monde. Vous voyez, moi, j'en servais toujours le Père Spi. Donc, c'est un prêtre qui m'accompagnait. À un moment, j'étais un peu énervé quand j'allais communier par des gens où j'avais l'impression qu'ils allaient communier un peu n'importe comment, comme on allait, genre au marché. Et évidemment, c'est quand je discute la communion et je me dis, parfois, il y en a, on a l'impression qu'ils sont en train de... Je sais pas, vous voyez, ils prennent un peu comme si on était en train de, je sais pas, de piquer un pop-corn dans le truc du voisin pour manger le corps du Christ. Et ça m'énervait profondément. Et donc, je partage ça à ce prêtre qui m'accompagnait. Et il me dit, « Marco, il se passe quoi dans ton cœur quand tu communies ?» Et je dis, bah, en fait, je suis un peu bloqué parce que je suis énervé par les gens que je vois communier à côté de moi. » Et il m'avait dit, bah, « En fait, change ta manière de communier. » Ne va pas comme, forcément comme ça, mais tu vois, moi, à ce moment-là, moi, je me mettais à genoux et je communiais dans la bouche. Et il m'avait dit, bah, « Va debout et accueille Jésus dans ta main. » Parce que c'est ce que proposent les deux façons dont l'Église propose de communier. Pourquoi il me dit ça ? Enfin, c'est pas du tout. Si je fais ça, je ne vais pas respecter Dieu comme je voulais le respecter en me mettant à genoux devant lui. Il m'a dit, tu verras qu'en faisant ça, il m'a même invité à changer de temps en temps, tu verras qu'en faisant ça, plus ça va aller et plus tu te rendras compte que peu importe la façon dont tu arrives, ce qui compte, c'est la façon dont tu accueilles le Seigneur et que tu arrêtes de regarder les voisins, parce que les voisins que tu es en train de juger quand tu communies, c'est avec eux que le Seigneur t'invite à faire un seul corps, et c'est pour eux que Jésus s'est livré, et c'est pour que tu les aimes que tu communies. Donc si au moment de communier, tu es en train de les haïr, il y a une contradiction entre ce que tu es en train de vivre et ce pourquoi ce moment est fait. Moi, ça m'a beaucoup aidé. Alors je ne vous dis pas que du coup, maintenant, à chaque fois que j'y vais, j'aime tout le monde. Et... Vous voyez, il faut se souvenir que en fait, le but de l'Eucharistie, de la messe, c'est que nous aimions comme Dieu aime. Ça va ? Alors... On avance. Du coup, maintenant, on va parler de ce que c'est que la messe. Alors, en fait, parmi vous, il y en a qui ont l'habitude à fond d'aller à la messe. Quand est-ce qu'on va à la messe, d'ailleurs ? Tout le temps. Qu'est-ce qu'on fait pas à la messe, là, alors ? Non, alors, ce que nous demande l'Église, on peut y aller tous les jours, hein, on sait qu'il y a la messe tous les jours, mais ce que nous demande l'Église pour les chrétiens, c'est d'aller à la messe le dimanche, parce que le dimanche, c'est le jour du Seigneur, et les jours... On appelle les jours de précepte, les jours de fêtes importantes dans l'année. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire ces fêtes-là ? C'est des fêtes importantes qui ne tombent pas un dimanche. Je ne sais pas si vous vous souvenez, le pont de la semaine dernière, il s'appelait comment ? Parce que jeudi, c'était ? Et c'est férié pour qu'on puisse aller à la ? Oui. Il y a quand même un truc, autant Pâques par exemple, on sait que Pâques c'est un dimanche, donc en fait la question ne se pose pas, mais il y a quelques grandes fêtes, Noël, Pâques, mais il y en a d'autres, l'Ascension, mais il y a aussi l'Assomption, le 15 août. Alors la Pentecôte, c'est pile le dimanche aussi, donc on a le lundi de Pentecôte pour se reposer d'être allé à la messe la veille, c'est sympa. Et il y a la Toussaint, voilà.
Et Noël,
exactement. Voilà, donc ça c'est des fêtes qui ne tombent pas un dimanche, mais où comme chrétien on est tenu d'aller à la messe. Et après, toutes les fois où, en plus, vous voulez aller à la messe, vous pouvez. Mais vous voyez, ce qui fait que là, pour le coup, c'est vraiment ce à quoi on est tenu comme chrétien. C'est là où l'Église nous demande d'être présent à la messe, où du coup, on doit tout faire en sorte pour que nous puissions être à la messe. C'était la petite parenthèse.
Alors, là, je n'ai pas le temps de vous expliquer vraiment pas à pas ce qu'est la messe. Peut-être qu'un jour, on vous proposera une messe expliquée.
On faisait ça souvent avec des enfants, c'était très beau. C'est une messe où on prend notre temps et on dit simplement, bah, en fait, à chaque fois, on vit une messe normale, sauf qu'on fait des pauses pendant toute la messe, on explique ce qui se passe.
Là, moi, ce que je vais vous faire, c'est vous parler un peu des grandes parties de la messe, mais surtout de comment vous vivre la messe. D'accord ? Parce que la messe, c'est un peu les deux trucs que je vous ai mis à la fin, mais je vous le dis tout de suite. C'est qu'il y a deux erreurs qui nous empêchent de vivre la messe. C'est soit de vivre la messe comme un spectacle,
de vous dire, Marco, il a un truc contre les spectacles.
Non, mais c'est soit de vivre la messe comme un spectacle, c'est-à-dire qu'il y a un truc qui se passe, qui est extérieur à moi, que je regarde, que j'essaye de comprendre, que j'essaye d'analyser, où je me dis, ben, peut-être c'était chouette, ah là d'ailleurs c'était beau.
Ah, ce qu'il a dit là, c'était pas mal. Mais vous voyez, comme quelque chose d'un peu extérieur dans lequel moi je suis positionné en face. Ça, c'est la première erreur.
Parce qu'en fait, la messe, le but de la messe, c'est de nous entraîner dans un mouvement. Donc quand on dit « Amen, je crois », quand toute l'assemblée dit « Amen, je crois », enfin, quand je dis « je crois », c'est ce que ça veut dire « Amen », ça veut dire « je crois ». Donc quand vous répondez à la fin d'une prière « Amen », vous êtes en train de dire « punaise, en fait, ce qui vient d'être dit, bah oui, j'ai compris, en fait, j'y crois et j'ai envie de le vivre ». Vous n'êtes pas simplement en train de dire « Amen, on peut s'asseoir ».
Vous voyez, quand on chante, alors parfois c'est compliqué parce qu'on ne connaît pas tous les chants, tout ça, mais en tout cas, quand on chante,
le but du chant, en fait, c'est qu'on soit vraiment tous en train de chanter pour... parce qu'on participe à l'Eucharistie. Quand on est debout, on est vraiment debout. Quand on est assis, on est vraiment assis. Quand on est à genoux, on est vraiment à genoux. Parce qu'en fait, on prie de tout notre corps parce qu'on n'est pas des témoins extérieurs de la messe, mais on vit la messe. Et la deuxième, c'est de se mettre dans de mauvaises conditions, mais ça, je vous en parlerai après. Donc, ce petit carnet, il a été fait l'année dernière pour expliquer un peu comment se passe la messe. N'hésitez pas à le prendre quand vous êtes à la messe, notamment si vous êtes un peu perdu. Je sais que parmi vous, moi on a croisé quelques-uns qui ont des carnets particuliers, qui sont achetés des super bouquins. Enfin, c'est trop bien en fait ce qui se fait aujourd'hui, parce qu'il y a plein de choses pour vous aider à vivre la messe. Voilà, donc à chaque fois, grosso modo, c'est à peu près la même chose. Il y en a qui sont un peu plus développés. Là, c'est un peu le strict minimum pour vous aider à ne pas être trop perdu. Mais ce qu'il faut retenir de la messe, là, je suis page 3, c'est qu'il y a 4 grandes parties dans la messe. Il y a 4 grandes parties. La première, Dieu convoque son peuple. Moi, c'est ce que je vous ai mis sur dans le petit papier, je vous ai mis l'accueil. Dieu convoque son peuple. Après, Dieu parle à son peuple. Après, Dieu nourrit son peuple. Et enfin, Dieu envoie son peuple. Qu'est-ce qui vous marque dans ces 4 noms ? Qui est-ce qui est à la messe ?
Il y a quelque chose de fou de se dire, enfin en gros, moi j'ai pas du tout, et j'ai regardé le carnet un peu trop tard, j'aurais peut-être dû mettre les mêmes termes dans le petit livret,
mais en fait c'est trop beau de dire, en fait Dieu convoque, Dieu parle, Dieu nourrit et Dieu envoie. En fait c'est ça l'enjeu de la messe. Donc la première partie, Dieu convoque son peuple. Donc Dieu convoque son peuple, on est dans l'église, il y a la procession d'entrée, donc généralement on arrive du fond de l'église, hop, on marche. Vous savez que normalement, on devrait tous être en procession. Il y en a qui étaient là à la vigile pascale. Vous avez vu qu'on est tous rentrés en procession. Vous avez aussi vu que c'est un peu galère. Bon, vous voyez, c'est pour ça qu'on ne fait pas ça chaque dimanche. Mais normalement, l'entrée en procession, vous savez ce que ça signifie ? Ça montre votre désir de changer de vie. C'est trop stylé quand même. Ça veut dire qu'en fait, je rentre dans l'église d'une certaine manière et je sais qu'à travers ce que je vis, parce que Dieu me convoque, Dieu va me parler, Dieu va me nourrir, Dieu va m'envoyer... Ben, ma vie va changer. Alors à chaque fois qu'on va à la messe, on n'a pas un truc de... Mais vous voyez, il faut vraiment y aller avec ce cœur-là, un cœur qui petit à petit se laisse faire par un Dieu qui nous apprend à chaque fois aimer mieux. Moi je vous dis ça, mais à chaque fois que je rentre dans l'église, je ne pense pas forcément à ce que... en me disant, punaise, Dieu va me changer pour être à cette messe, mais je devrais. C'est le sens de cette procession. Donc là, on chante tous. Quand on chante tous, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on s'associe à ce qui est en train d'être fait. Donc si les prêtres et les servants de messe marchent et que cette marche signifie qu'on veut changer de vie, et que vous, vous êtes en train de chanter en même temps, ça veut dire quoi ? Que vous aussi, vous désirez quoi ? Changer de vie. Franchement, dites-vous ça de temps en temps, au chant d'entrée, quoi. Cette messe, elle ne va pas me laisser indemne. On arrive, et vous voyez que le prêtre embrasse l'autel. L'autel, c'est le centre de la célébration de la messe. Vous savez que parfois, il y a des tabernacles dans les églises, même tout le temps, en fait, grosso modo. Et parfois, le tabernacle, il est dans l'autel. Donc, le tabernacle, vous voyez, c'est là où on dépose la réserve avec Jésus, la présence réelle de Jésus. Donc, on repère ça parce qu'il y a une petite lumière rouge dans les églises. Donc, si vous entrez dans une église et vous voyez une lumière rouge, vous savez que c'est à cet endroit-là qu'est déposé le Saint-Sacrement, donc la présence réelle de Jésus. Donc, c'est pour ça que, par exemple, si vous entrez dans une église et que vous voyez l'autel est là-bas, mais que le Saint-Sacrement, la petite lumière rouge est à droite, bon, en fait, généralement, on s'allume plutôt la petite lumière rouge qui est à droite parce que c'est là où est Jésus. OK ? Sauf pendant la messe, où pendant la messe, c'est l'autel qui est le centre de toute notre attention. Parce que l'autel, à ce moment-là, représente à la fois le Christ. Vous savez que c'est, on a ça dans la Bible, hein. Le Christ est à la fois l'autel, la victime et le grand prêtre. Et ce qui se vit pendant la messe, c'est que l'autel, la grande pierre qui est au milieu, pour nous, pendant la messe, signifie à la fois le Christ qui se donne, le lieu dans lequel le Christ va se donner, et le lieu sur lequel nous pouvons nous reposer parce que c'est un roc solide. C'est aussi une forme de table, parce que l'Eucharistie est le banquet auquel le Seigneur nous invite. C'est pour ça que c'est une table. Ça va ? Après, là je passe, enfin je termine juste sur ça, mais on encense l'autel à ce moment-là. Retenez simplement que l'encens, il y a deux significations. C'est on encense, vous voyez, là on reconnaît qu'il y a la présence de Dieu. Donc au début, on encense l'autel, mais je ne sais pas si vous avez frappé, il y a un moment où on encense aussi le prêtre et tout le peuple. C'est-à-dire que quand on vous encense, on n'est pas en train de dire qu'ils sont stylés, donc on va leur mettre un peu de fumée là. C'est pas ça. C'est qu'on reconnaît qu'en vous encensant, c'est pas facile à dire, qu'en vous encensant, en fait, la présence de Dieu est là. La présence de Dieu est là. Et si un jour, vous assistez à des obsèques, on encense aussi le corps de la personne décédée. Parce qu'on reconnaît en cette personne, même décédée, que Dieu est réellement présent et que le corps est le temple de Dieu. Et la deuxième signification de l'encens, c'est la prière qui monte vers le Père. Je passe. Retenez aussi qu'on commence en demandant pardon au Seigneur, parce que même si on est baptisé, qu'on vit une vie nouvelle, on a toujours besoin de demander pardon au Seigneur avant de pouvoir dignement célébrer la messe. Pourquoi je dis dignement célébrer la messe ? À votre avis, qui célèbre la messe ? Hein ? Le prêtre ? Est-ce que ça vous parle qu'à un moment le prêtre dit « Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. » Il y a quelque chose qui est très mystérieux dans la messe, c'est que c'est le peuple de Dieu dans son ensemble qui célèbre la messe, c'est-à-dire qui offre à Dieu quelque chose. Et le prêtre est là pour, voyez, rassembler ses offrandes et les tourner vers le Père. Mais ça, c'est hyper important. C'est que quand un baptisé est à la messe, vit la messe, il présente à Dieu tout ce qu'il est, toute sa vie, tout ce qu'il veut présenter au Seigneur. Et c'est ça qui fait la victime, l'offrande qui est présentée au Père. C'est hyper important. Vous savez, dans plein de cultures, au moment de l'offertoire, chacun vient avec un petit truc qu'il a rapporté de chez lui. Notamment, on voit ça beaucoup en Afrique, où ils viennent avec pas mal de paniers de fruits, ou notamment tous les fruits des récoltes, ou plein de choses. Et tout est déposé au pied de l'autel. Ça signifie que chacun apporte quelque chose. C'est aussi le sens de ce qu'on appelle la quête. La quête, alors en plus de subvenir aux besoins matériels de l'église, je précise, du chauffage, tout ça, c'est pas avec ça que je vais à la piscine tous les soirs. Ok, non mais c'est pour les besoins matériels de l'église. Ce que ça signifie, c'est que, en fait, vous offrez quelque chose, mais profondément, c'est à l'intérieur que vous devez offrir quelque chose au Seigneur, votre vie, tout ce que vous voulez, votre famille, vos... Ok, donc ça c'est important, hein. Vous célébrez tous les baptisés, je dis bien les baptisés parce que vous voyez c'est la grande différence entre quand on est catéchumène par exemple, où on assiste vraiment à la messe, mais on ne célèbre pas la messe, parce que le baptême fait de nous des prêtres, prophètes et rois, et des prêtres c'est ceux qui célèbrent la messe.
Rassurez-vous, celui qui se prépare au baptême, vous allez le vivre.
C'est pour ça que vous avancez. Ok ? J'ai sauté un truc, pardon.
Dieu nous parle. La deuxième partie de la messe, c'est bien sûr Dieu qui nous parle. Donc c'est la liturgie de la parole. D'accord ? Donc c'est le moment où vous êtes assis au début, il y a les lectures. Il y a les lectures. Est-ce que vous pensez que les lectures sont choisies au hasard ? Donc il y a le dimanche, quatre lectures. Il y a une première lecture qui souvent est tirée de l'Ancien Testament. Sauf pendant le temps pascal, où c'est tiré de quel livre ? Les Actes des Apôtres. Mais sinon, c'est toujours l'Ancien Testament. S'il y en a qui sont perdus, c'est pas grave. Soyez perdus, je vous rattrape. Non, mais lisez le petit bouquin. Hein. Donc, première lecture. Ensuite, il y a le psaume. Le psaume, c'est la réponse du peuple de Dieu à la parole qui vient d'être entendue. Alors, pour que ce soit plus beau, ce qu'on fait généralement, c'est qu'il y a une personne qui va chanter toute seule au micro. Généralement, on prend une personne qui sait bien chanter. Mais en vrai, ce que c'est en train de signifier, c'est la réponse de tous ceux qui sont là à la parole de Dieu qui vient d'être proclamée. Okay, donc même si vous n'avez pas chanté, si sur la petite feuille de messe, il y a les paroles du psaume, eh ben, n'hésitez pas au moins dans la tête, à même temps que la personne est en train de les chanter, à les lire ou à vous associer. Et ceux qui viennent à la messe à Saint-Nizier en semaine, ce qu'on fait pendant la semaine, c'est qu'on lit tous ensemble le psaume. Chacun sur son téléphone et on le lit ensemble. Ensuite, troisième lecture, c'est ce qu'on appelle la deuxième lecture. Donc la troisième lecture issue de la parole de Dieu, qu'on appelle du coup dans la liturgie la deuxième lecture, c'est une lecture du Nouveau Testament hors évangile. Donc généralement, c'est une lettre de Saint Paul. Et ensuite, il y a l'évangile. Évangile, ça veut dire bonne nouvelle. Donc là, c'est le prêtre qui le lit. Ce qu'il faut retenir, c'est que quelqu'un qui va à la messe tous les dimanches pendant 3 ans va entendre l'ensemble de l'évangile à la messe et va entendre les parties les plus importantes de l'Ancien et du Nouveau Testament. Tout est réfléchi, en tout cas pour les messes du dimanche, sur 3 ans. Ce qui fait que là, les textes qu'on a cette année, si vous revenez l'année prochaine aux messes du dimanche, vous n'aurez pas les mêmes textes. L'année d'après, pas les mêmes, mais l'année d'après, vous retombez sur les mêmes. Mais généralement, vous avez un peu oublié, donc... Voilà, donc ça c'est important, c'est qu'en fait sur 3 ans, l'Église nous donne d'écouter tous les textes importants de la Bible. C'est très long la Bible, vous l'avez vu, mais en fait un chrétien qui va régulièrement à la messe a entendu, en tout cas, même si à chaque fois on n'est pas hyper concentré, on ne retient pas tout ce qui est dit, mais en tout cas a entendu l'ensemble des évangiles et une grande partie des textes de l'Ancien et du Nouveau Testament. L'homélie, le prêtre essaye d'expliquer ce qui vient d'être dit et de rendre concret la parole de Dieu. Credo, on dit ce que l'Église croit. Credo, ça veut dire croire. On dit ce que l'Église croit. Et ensuite, la prière universelle, on porte ensemble le monde entier. C'est pour ça que souvent, on va prier, par exemple, je ne sais pas, pour les dirigeants, pour les malades, pour ci, pour ça. On essaie de prier pour le monde entier. Fin de la deuxième partie, on passe à la troisième, qui est ce qu'on appelle la partie de l'Eucharistie. Dieu nourrit son peuple dans le petit livret. Ça va jusque-là ou pas ? Donc, Dieu nourrit son peuple, ça commence par l'offertoire. Vous savez, l'offertoire, c'est le moment où vous êtes assis, il y a la quête, il y a un beau chant généralement qui nous aide à prier, et il y a tous les servants qui se mettent en branle-bas de combat pour apporter toutes les affaires sur l'autel. Vous voyez, ce moment-là, ça s'appelle l'offertoire. C'est le moment où vous, dans votre cœur, vous devez présenter à Dieu tout ce que vous voulez lui offrir. C'est important ce moment, c'est très beau. Et donc, le moment de l'offertoire, dites-vous dans votre tête, à ce moment-là, qu'est-ce que j'offre à Dieu, quoi ? Qu'est-ce que je suis en train de lui offrir ? Qu'est-ce que j'ai vécu de cette semaine, de mes joies, de mes difficultés ? Qu'est-ce que j'aimerais présenter au Seigneur ? Vous lirez un peu tout ce qui est dit à ce moment-là. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'ensuite, il y a différentes prières eucharistiques. Vous voyez, les prières eucharistiques, c'est quand le prêtre, il est comme ça, et il dit plein de trucs à la suite. Et donc, c'est le moment aussi où on peut se mettre à genoux. Bon, là, il y a différentes prières eucharistiques. Donc, vous voyez, là, par exemple, c'est là où ça peut être un peu touchy. C'est que dans le livret, là, à la page 13, ils vous disent prière eucharistique. Ils vous donnent le début. Donc, en fait, il ne faut pas louper le début. Et ils vous disent, là, si ça commence par ça, c'est page 14. Si ça commence par ça, c'est page 17. Si ça commence par ça, c'est page 19. Donc, en fait, le but de la prière eucharistique, c'est toujours la même chose. C'est à la fois, on fait mémoire de l'action de Dieu dans l'histoire.
et on redit au milieu les paroles mêmes de Jésus. Vous savez, c'est le prêtre, le moment où il dit « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Il élève l'hostie, et après il fait la même chose avec le calice. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la prière eucharistique avec la consécration au milieu. Ça va ? Donc ensuite, ce qui est hyper important aussi, c'est que la consécration, c'est, ça commence au moment où le prêtre met ses deux mains comme ça et invoque l'Esprit Saint. Parce que souvent on dit c'est le prêtre qui fait que Jésus est là, tout ça, et c'est vrai. Hein. Mais le premier acteur de la messe, c'est l'Esprit Saint. Et c'est pour ça que, comme ceux qui seront confirmés samedi, vous aurez une imposition des mains sur la tête. D'accord ? Vous verrez l'évêque, généralement il le fait à tout le monde, il fait comme ça au début, il fait une prière sur tous ceux qui sont confirmés. Et bien il y a le même geste pendant la messe, où le prêtre met ses mains comme ça sur le pain et le vin, et dit « Sanctifie ces offrandes, Seigneur, par ton Esprit Saint ». Donc vous voyez, c'est ce qu'on appelle le moment, on appelle ça l'épiclèse, donc c'est le moment où l'Esprit Saint descend sur les offrandes. Okay, donc il faut ça et les paroles du prêtre. Ensuite, on se relève. Notre Père. Et après, qu'est-ce qu'on fait après Notre Père ? La paix du Christ. Ça, la paix du Christ, c'est pas l'entracte. En fait, c'est trop beau ce geste. Non, mais c'est trop beau ce geste. Hein. C'est qu'il y a plusieurs significations, mais vous voyez, à un moment dans l'Évangile, Jésus dit, si tu as quelque chose contre ton voisin, avant de présenter ton offrande au Seigneur, laisse-la ton offrande, va voir cette personne, demande-nous pardon et ensuite reviens présenter ton offrande. Et vous voyez, c'est très beau. Moi, parfois, je vois des familles qui me disent que, notamment, c'est le moment où les parents demandent pardon pour telle chose à leur enfant ou inversement. Et il y a quelque chose de très beau à vivre. Donc, vous voyez, souvent, nous, on donne la paix du Christ à quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc on n'a rien à... Mais par exemple, si, je sais pas, si à un moment, vous êtes avec des potes et qu'il y a eu des tensions entre vous, ça peut être aussi un beau moment de dire, mais en fait, vraiment la paix du Christ, quoi. Non, mais ça peut être très beau de le vivre aussi profondément, vous voyez. Et puis en même temps, le deuxième sens, c'est aussi se dire, en fait, le cadeau que Dieu nous fait à travers la communion, la messe, c'est la paix entre nous, quoi. Et déjà, si on a du mal à vivre avec celui qui est assis à côté de nous, ça sera encore plus compliqué de le vivre avec le vélo qui aura failli nous écraser en sortant de la messe, ou je ne sais pas quoi. Ok ? Ça, c'est le geste de la paix du Christ, et c'est important. Ensuite, arrive le moment de la communion. Il y a une phrase importante qu'on dit, je vais passer assez rapidement sur les phrases parce qu'elles sont incarnées, mais « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. » Vous savez, c'est toute l'assemblée qui dit ça. C'est très beau, c'est ce que dit le centurion dans l'Évangile. Vous voyez, de la reconnaissance que, en fait, le mystère fou de l'Eucharistie, personne n'en est digne. Il n'y a personne qui peut se lever un moment en disant « Moi, je ne dis pas cette phrase-là, parce qu'en fait, moi, je suis nickel. » D'ailleurs, je mérite, pour tout ce que je fais, je mérite carrément que Jésus se donne à moi. Je mérite carrément de recevoir le corps du Christ. Et donc, moi, je n'ai pas besoin de dire, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Donc, vous voyez, c'est important. On avance tous humblement sur ce chemin. Tous ceux qui participent à l'Eucharistie sont invités à communier au Christ ressuscité. Là, je fais un point. Honnêtement, je ne vous connais pas plus que ça. Non, mais en fait, je ne vous connais pas plus que ça, donc je ne sais pas quelles sont vos vies, quelles sont... Mais c'est un point qui est important de faire. Mais c'est important qu'ensuite, chacun puisse, vous voyez, discerner là où il en est, qu'il puisse en discuter avec son accompagnateur, avec le prêtre qu'il croisera. Mais donc, c'est important de se dire, quand on va communier en vérité. Il y a deux choses importantes de savoir. C'est que je vous l'ai mis une première truc, c'est pour ça que j'ai fait un petit lien avec la confession. C'est que, vous voyez, parfois, vous l'entendez à la messe, le prêtre, on essaie de faire des petits mots pour que les gens comprennent, en fait, que, en gros, quand on va se communier, on ne peut pas arriver dans n'importe quelle condition. Je vous fais une parenthèse importante sur la question des péchés. Vous savez que le péché, c'est un acte contre Dieu. La définition d'un péché, c'est un acte contre Dieu, qui peut très bien être contre nous-mêmes ou contre... notre voisin, tout ça, mais c'est toujours in fine contre Dieu, c'est toujours Dieu qu'on blesse. D'accord ? Il y a deux styles de péchés. Il y a ce qu'on appelle les péchés graves,
vie mortelle, et les péchés véniels.
Un péché, c'est toujours grave. Ok ?
Mais donc, il y a des péchés, ce qu'on appelle des péchés mortels, c'est des péchés qui nous coupent de la relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on appelle ça des péchés mortels. C'est pas parce que, ça y est, une fois qu'on a fait ça, d'un coup, tac, t'es foudroyé, c'est pas ça, c'est que c'est un péché qui, en fait, le fait de faire cet acte-là, nous coupe de la relation avec Dieu. C'est ce que vivent Adam et Ève quand ils sont complètement coupés de la relation avec Dieu, mais que Dieu continue d'aller les voir. C'est ça le sacrement de la réconciliation. Dieu nous donne le sacrement de la réconciliation parce que certains péchés nous coupent avec lui, mais que Dieu nous aime tellement qu'il ne cesse de revenir vers nous et qu'il nous dit, en fait, même si tu t'es coupé de moi, je continue de revenir vers toi. Tu n'as qu'à accueillir mon pardon. Et c'est ça le sacrement du pardon. D'accord ? Pour qu'un péché soit mortel, je vous donne ça parce que, pareil, plein de cathos ne sont absolument pas au courant. Et vous, si vous pouvez être au courant, dès maintenant, c'est trop beau. Okay ? Parce qu'il y a des gens, ils ont l'impression de faire des péchés mortels tout le temps. Ils ont volé une pomme au supermarché. Ils ont l'impression qu'ils... peut-être que ça peut être un péché mortel dans ça. Non, mais vous voyez, en fait, il y a un vrai discernement à avoir. Donc, pour qu'un péché soit mortel, il faut que ce soit... Il y a trois conditions contre... les 10 commandements. Donc là, je vous ai fait un petit, ce qu'on appelle un examen de conscience. Donc ça vous redit un peu les 10 commandements et ce que ça implique derrière. Donc ça, généralement, la plupart des péchés qu'on fait, c'est qu'on les 10 commandements. Donc ça, généralement, on coche tous la case. Après, deuxième point, il faut savoir que c'est un péché. Je ne sais pas que frapper mon voisin est un péché. Je frappe mon voisin, je n'ai pas commis de péché. Bon, j'espère que vous savez que frapper votre voisin, ça... Non, mais c'est important, vous voyez, parce qu'en fait, parfois, des gens, notamment, qui se convertissent, culpabilisent pour des actes qu'ils ont posés, et c'est peut-être bien de les présenter au Seigneur, de demander pardon au Seigneur pour ça, mais attention de ne pas porter une culpabilité qui ne serait pas juste, que vous pouvez très bien ne pas porter la responsabilité d'un acte parce que vous n'étiez pas au courant que cet acte était un péché. D'accord ? Deuxième condition. La troisième, c'est qu'il faut le vouloir. Et c'est là où c'est plus touchy. Parce que parfois, on se rend compte qu'il y a certains péchés dans lesquels on tombe tellement facilement, même sans le vouloir. Vous voyez qu'on est, dans une vie tellement compliquée que, la vie fait qu'on est, amené à toujours refaire ce même péché, que parfois des addictions, que parfois ci, parfois ça. Et tout ça fait que ça reste quand même, vous voyez, un péché, mais ça amoindrit notre responsabilité. Ok ? Ce qui fait que, vous voyez, par exemple, un même péché, une même situation pour deux personnes peuvent ne pas provoquer la même coupure avec Dieu entre, par exemple, quelqu'un qui serait complètement, vous voyez, addict à telle ou telle chose ou quelqu'un qui ne l'est pas du tout et donc la responsabilité n'est pas la même. Ça va sur ça ? Donc, quand on fait un péché mortel, ce que nous demande l'Église, c'est de nous confesser avant de recevoir l'Eucharistie. Les péchés véniels, d'accord ? Ça amoindrit, véniel, ça veut dire, enfin je ne sais pas trop ce que ça veut dire, un peu moins grave quoi, ça amoindrit notre capacité à aimer. Mais il y a plein de choses qui nous aident à, voyez, à regrandir dans l'amour malgré ces péchés-là. C'est tous les actes de charité qu'on va poser. C'est le moment où, au début de la messe, on dit « Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs. » Vous voyez, c'est des moments où on demande à Dieu son aide pour grandir dans la charité malgré ces petits péchés. Moi, personnellement, je les confesse aussi quand je dois confesser. Mais en soi, on n'est pas tenu de les confesser. Mais vous voyez, moi, je balance tout au bon Dieu et je me dis, tu te débrouilles avec ça. Ok ? Je vous ai mis une petite page, là. Je fais une petite parenthèse sur la confession, parce que peut-être que certains ne savent pas. D'autres ont fait une première expérience qui n'était pas forcément bien passée. Enfin, ça dépend, vous voyez, de chacun. Honnêtement, c'est hyper beau, la confession. C'est pas simple. Enfin, qu'on soit catholique depuis toujours ou qu'on commence dans la foi, c'est simple pour personne. Et vous voyez, dites-vous que les prêtres, on se confesse, enfin, normalement. Vous voyez, quand vous allez voir, moi, ce que je partageais tout à l'heure à l'une d'entre vous, c'est que moi, un jour, il y a un prêtre qui m'a hyper mal accueilli en confession. Ça m'a tellement blessé que à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui vient pour se confesser, je repense à ça, enfin, peut-être pas à chaque fois, je vous allais un peu, mais je repense à ça en me disant, mais punaise, j'espère que la personne qui sera en face de moi, que je ne connais pas. Parce qu'il faut se dire, c'est parfois le prêtre, il passe des heures dans le confessionnal et il croise plein de gens. Il y a des gens qui viennent pour la première fois, qui attendent énormément. Il y a des gens qui viennent, qui attendent toujours. Enfin, vous voyez, les gens sont très différents. Et peut-être que parfois le prêtre peut ne pas vous accueillir comme vous auriez aimé qu'il vous accueille. Le prêtre reste un homme avec ce qu'il est, avec ses compétences et ses défauts, ses limites aussi. Mais ouais, dites-vous en tout cas qu'à ce moment-là, c'est à Dieu que vous vous confessez. Je n'ai pas le temps, parce que j'aimerais bien avoir un temps de questions-réponses après, de développer. Mais là, je vous ai mis tout un truc
pour vous aider un peu à la fois à vous préparer et aussi à ce que c'est la confession. Notamment, le but de la confession, ce n'est pas une autobiographie. L'idée, ce n'est pas de présenter votre vie et puis à chaque fois que vous présentez un péché, de donner tout le contexte autour, pourquoi vous avez fait ça, et en même temps, vous êtes en une pleine plaidoirie, vous essayez de montrer pourquoi vous avez eu raison de faire ça. Ben voilà, bref. Fin de la parenthèse sur la confession. Il y a, donc ça, c'était la première chose qui fait que, du coup, on peut ne pas aller communier et qu'on peut s'approcher en se faisant bénir par le prêtre. Dieu nous rejoint réellement. La deuxième chose, là, je vous insiste, j'insiste vraiment sur ça, c'est que, parfois, la situation dans laquelle on vit, la situation conjugale dans laquelle on vit, fait qu'on ne peut pas communier. Et là, on n'est pas sur le même ordre que ce que je vous disais tout à l'heure sur la question du péché. Okay, on a changé de registre. On n'est plus dans la question du péché. Vivre dans ces situations-là peut être un péché. À vous de discerner, à vous de voir par rapport aux 10 commandements. Mais donc, quand je dis situation conjugale qui peut ne pas être cohérente avec l'Eucharistie, c'est le fait de vivre avec quelqu'un qui n'est pas notre mari ou notre femme, comme si on était marié. Ça va jusque-là ? Pourquoi je vous dis ça ? La semaine dernière, il y a 2 semaines, je vous ai dit que le sacrement qui nous aidait à comprendre tous les autres sacrements, c'était le mariage. Pourquoi ? Quand un homme et une femme se donnent pour toujours devant d'autres personnes en disant « je te choisis pour toujours » et peut-être que certains parmi nous le disent aussi de manière, enfin, dans leur relation avec la personne avec qui ils vivent ou avec qui ils sont, « je veux donner ma vie pour toujours avec toi ». Et moi, j'ai célébré les obsèques il n'y a pas longtemps d'une personne et en fait, sa copine est venue faire un témoignage devant tout le monde, c'est très beau, et notamment sa copine disait « on s'était promis pour toujours ». Et après, j'ai eu une conversation avec cette fille-là, c'était très beau, enfin, moi c'était plus pour l'accompagner dans le deuil, mais elle me disait « on s'est toujours dit ça, mais je ne saurais jamais s'il y a un moment où en fait on l'aurait officialisé ». Et moi, ça m'a frappé un peu le truc-là de dire, effectivement, il y a aussi des choses qu'on peut dire de manière, enfin, et qui sont vraies, et qui sont, vous voyez, c'est pas des paroles en l'air qu'on est en train de donner, mais ce que nous propose l'Église, c'est de vivre lors du mariage, donc quelque chose qui est visible pour tous devant Dieu. Je vous ai dit que le mariage nous permettait de comprendre les autres sacrements, parce qu'un homme et une femme qui se donnent pour toujours nous aident à comprendre que Dieu se donne pour toujours à nous, et que nous sommes appelés, nous aussi, à nous donner pour toujours avec lui, c'est ce qu'on appelle l'alliance. Et que la façon dont un homme et une femme s'aiment nous dit quelque chose de la façon dont Dieu nous aime et dont nous devons aimer Dieu, malgré nos limites, malgré nos faiblesses et ceux qui parmi nous sont mariés. Bon, ouais. En fait, et clairement, il y a des moments où c'est pas simple. Ben, c'est pareil, nous, dans notre vie de foi. Ce qui fait que le moment de l'Eucharistie, quand Jésus donne son corps, pourquoi on insiste tellement sur la question du corps ? Dans la question du mariage, il y a quelque chose de similaire, le don des corps. Quand Jésus nous donne son corps dans l'Eucharistie, il invite celui qui communie à se donner aussi entièrement dans son corps à Jésus qui se donne à lui. Et du coup, le mariage est la signification la plus belle de ce qui se vit dans l'Eucharistie. Ce qui fait que quand on vit maritalement sans être marié, même si on a vraiment envie de se marier, et même parfois on est en préparation au mariage, on se prépare à se marier, et bien vous voyez, il y a quelque chose qui ne reflète pas le sacrement de l'Eucharistie, c'est-à-dire Dieu qui se donne entièrement dans son corps et qui nous appelle à nous donner nous aussi entièrement à lui. Encore une fois, je ne vous connais pas. J'espère que ce que je vous dis ça parce que l'idée c'est que chacun puisse avancer là où il en est. Et la dernière fois, j'ai terminé en nous disant le but de l'alliance, c'est que Dieu vienne à chaque fois nous chercher là où on en est et nous dit qu'il y a des petits pas qui sont faisables et on avance ensemble parce que le chemin avec moi, Jésus nous dit je suis le chemin, la vérité, la vie. C'est-à-dire que le but de l'alliance avec Dieu, c'est de vivre. Ok ? C'est pas de dire punaise, en fait, c'est soit trop dur ou alors au contraire, ça veut dire qu'il m'aime pas, ça veut dire que si, ça veut dire que ça. Le but de la vie chrétienne, c'est de se dire, peu importe dans ce que je vis, il y a toujours un chemin de vie, et donc je vais avancer petit pas par petit pas. C'est sûr que si j'arrive en bas du Ventoux et que je me dis, punaise, il faut que je sois là-haut dans 10 secondes, il y a un moment où on va dire, c'est impossible, quoi. Par contre, on commence à marcher tranquillement. Et en fait, on voit que c'est pas simple. Il y a des gens qui nous aident à porter notre sac. Il y a des gens qui nous aident à avancer, à boire, à manger. Hop, on avance petit à petit. Et on comprend qu'en fait, il y a un vrai chemin de liberté. Quand on arrive là-haut, on contemple la Provence chez moi. Et on se dit, c'est trop beau. Oui, je vous dis ça parce que c'est important de saisir. Vous voyez qu'il faut à la fois être en vérité dans notre chemin avec le Christ. Et c'est peut-être pour ça que parmi nous, certains vont attendre un petit peu avant de faire leur première communion. Parce que ce qui est important, c'est de communier en vérité. D'accord ? Mais ce que ça veut dire, ça ne veut pas dire que vous êtes moins aimé du bon Dieu. Ça va sur ça ? Franchement, si vous avez le moindre truc, vous venez nous en parler, vous venez, si vous avez... Donc voilà, mais... Ouais. Mais c'est pas simple, quoi. Enfin, l'idée, c'est d'avancer ensemble, mais voilà. Je termine. D'ailleurs, juste, je termine sur ça en disant que quand vous avancez pour vous faire bénir, c'est pas une demi-communion, c'est pas une demi-bénédiction que vous recevez, genre le bon Dieu, très bien, hop, il s'est donné entièrement dans la communion, et puis il y a quelqu'un qui vient se bénir, et eux, bon, ils ont une mini-grâce, ils ont un peu la friandise qui permet de pas repartir trop triste de la messe. C'est pas ça. C'est que Dieu nous donne réellement ce dont nous avons besoin pour avancer. Donc quand vous recevez la bénédiction de Dieu, ce qu'on appelle la communion spirituelle, Dieu se donne vraiment à vous et vous donne ce dont vous avez besoin. Et vous savez, quelqu'un qui va choisir de ne pas communier parce qu'il veut être en vérité, je pense que le Seigneur lui donne beaucoup plus de grâce pour avancer que celui qui va dire... qui veut absolument vouloir communier et qui n'est pas en vérité avec le sacrement même de l'Eucharistie, parce qu'il n'y a personne qui va venir vous dire « toi, tu n'as pas le droit ». Si vous arrivez... Moi, la dernière fois, j'ai donné la première communion à un juif orthodoxe. Il ne comprenait pas du tout. Il a fait comme tout le monde, il s'est avancé. C'est la première fois de sa vie qu'il est rentré dans une église. Il ne parlait pas du tout français. Il a fait comme tout le monde, il a avancé. Il a vu des gens qui se mettaient à genoux, qui ouvraient la bouche. Il s'est mis à genoux, il a ouvert la bouche. Enfin, moi, je n'ai pas réfléchi, vous voyez. Oui, il a fait sa première communion. Non, mais vous voyez, en fait, il n'y a personne qui va vérifier et qui va dire « montre-moi ton badge avant de communier ». Vous voyez, c'est à nous d'avancer. Et je pense réellement que la personne qui souhaite avancer en vérité reçoit beaucoup plus de grâce en acceptant de venir humblement se faire bénir que la personne qui va avancer en disant « je vais communier » alors que je sais très bien intérieurement que je ne communie pas en vérité. À la fin, il y a l'envoi. Vous savez que messe, ça veut dire envoi. Enfin, non, vous savez peut-être pas, mais... En gros, la messe, ce que veut dire messe, c'est envoyer. Je vous disais que le but de la messe n'était pas la présence réelle, c'était que nous formions le corps du Christ et que nous soyons nous-mêmes présence réelle du Christ. Ben, le moment où vous êtes envoyé à la fin de la messe, quand le prêtre dit « Allez dans la paix du... » Je vais chanter. Il dit « Allez dans la paix du Christ », il vous dit « Rendons grâce à Dieu ». C'est en fait, il vous envoie en mission... Parce que c'est le but de la messe. Voilà. Je m'arrête là. On a 5 minutes de questions. Pardon, je suis trop long. J'aurais aimé avoir 15 minutes un peu de trucs. Mais prenez tous vos papiers là et relire. Là, ceux qui partent, ne vous inquiétez pas, c'est ceux qui sont accompagnateurs et qui ont une réunion des accompagnateurs. Voilà. Mais on peut finir dans 5 minutes. Si vous avez une question un peu... Ouais. Ça va bien.
Une question par rapport à l'Eucharistie.
Ouais.
Quand on va recevoir la communion, ça veut dire que, en gros, ce que j'ai pas compris, c'est si jamais j'ai péché avant, un péché mortel,
ouais.
Il faut que, par exemple, la messe de dimanche, je l'ai fait le vendredi, mais je me suis fait confesser le lundi.
Non mais je vous dis parce que la consigne que je donne aux jeunes, ok, et que j'essaie de m'appliquer moi aussi, c'est que, vous voyez, ce que je vous disais, c'est que c'est compliqué de discerner si un péché est mortel ou pas, notamment sur cette dernière question de la volonté, parce que par exemple, je peux très bien, vous voyez, par exemple, c'est pas la même chose quelqu'un, ça c'est important, hein, les amis, c'est pas la même chose, pourtant c'est la même mensonge, mais par exemple, imaginons que demain vous avez une rencontre avec votre boss, vous choisissez en amont de lui mentir parce que vous n'avez pas envie de vous mettre dans telle ou telle situation, et donc là vous dites vraiment je vais lui mentir parce que donc je vais aller le voir et je vais lui dire que ça, donc vous avez pris. C'est pas la même chose, vous voyez, que par exemple vous êtes avec face à votre boss, vous êtes bloqué à la machine à café, d'un coup il vous dit un truc, vous êtes pris un peu de panique et vous balancez un mensonge. Concrètement, c'est la même chose, vous avez menti, donc c'est le même acte qui est posé,
Mais on sent bien, vous voyez, qu'en termes de volonté sur l'acte, c'est quand même pas la même chose. Donc là où je vous invite, c'est que c'est toujours compliqué de savoir si ce qu'on a fait, c'est un péché mortel ou pas. Donc moi, je vous invite à bien dormir la nuit, à pas vous dire, ah, punaise, est-ce qu'aujourd'hui j'ai fait combien de péchés ou je sais pas quoi, à vous confesser régulièrement. Vous savez que ce que demande l'Église, c'est au moins une fois par an. Mais un bon rythme, moi, que je conseille aux jeunes, c'est une fois par mois. Et moi, je dis à un jeune qui se confesse une fois par mois, même s'il confesse à chaque fois les mêmes péchés, bah, tu communies. Même si, par exemple, tu t'es confessé le lundi, que, en fait, je sais pas, le jeudi, le vendredi, tu as tombé dans un péché que tu as confessé, tu communies. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas digne de te recevoir, mais c'est seulement une parole et je serai guéri. Par contre, vous voyez, si en conscience, au moment d'aller à la messe, et ça arrive parfois, hein, en conscience, au moment de la messe, tu sais que là, il y a un péché pour le coup que tu viens de faire et que tu sens à l'intérieur, c'est ce qu'on appelle la conscience, hein, c'est vraiment la voix de Dieu en nous, qu'il n'est pas bon que tu communies, ben communie pas. Mais en tout cas, vous ne mettez pas la pression inutile qui serait de dire à chaque fois que vous allez à la messe, et c'est de dire mince, est-ce que j'ai commis un péché mortel, est-ce que je veux. Vous voyez, il faut à la fois être conscient que du coup, il faut préparer notre cœur avec des confessions régulières. Mais vous voyez, moi, quand j'habitais en Espagne, vous allez toujours frapper, les Espagnols ne communient jamais, sauf s'ils sont communiés et sauf s'ils sont confessés dans les 10 secondes avant la messe. Donc tu as des prêtres qui enchaînent les confessions la demi-heure avant la messe, et du coup, dans les potes espagnols, ils ne communient que s'ils étaient confessés juste avant. Voilà, il y a un truc qui n'est pas juste non plus. D'accord ? Moi, je vous donnerai comme règle, mais après, c'est encore une fois une question de conscience, c'est de vous confesser régulièrement et qu'effectivement, s'il y a un moment où vous commettez un péché, où là vous sentez effectivement qu'il y a un vrai truc et vous n'êtes pas à l'aise avec, vous sentez en conscience que ce que vous avez fait n'est pas bien, quoi. Vous a coupé de. Ben, dans ce cas-là, allez vous confesser quand vous pouvez. Et puis... Ouais.
Question par. On n'a pas le droit de se confesser avant lorsqu'on n'est pas baptisé.
Voilà, donc la confession, c'est, vous voyez, le fait de renouveler la grâce du baptême. Donc en fait, pour renouveler la grâce du baptême, il faut être baptisé. Le baptême nettoie tous vos péchés. Ceux qui ont été baptisés à Pâques, ceux qui ont été. Vous êtes lavés de tous vos péchés. Et en fait, on se rend bien compte qu'il y a beaucoup de péchés. Et donc, c'est pour ça qu'il y a toujours de la confession.
Mais il y a une chose.
Par contre, juste par rapport à ça, vous pouvez, même si vous n'êtes pas baptisé, aller demander pardon à Dieu pour vos péchés. Que ce soit. D'ailleurs, en fait, ça, d'ailleurs, enfin, vous voyez, moi. Je ne vais pas vous dire toute ma vie, mais vous voyez, moi, tous les soirs, je demande pardon au Seigneur pour mes péchés. Je ne confesse pas, mais je demande pardon à Dieu pour mes péchés. Il y a des moments où je vais me confesser, où là, je reçois de Dieu, je sais, j'ai la certitude qu'il me pardonne. Mais tous les soirs, je remercie le Seigneur pour ce qu'il fait dans ma vie, je lui demande des choses et je lui demande pardon aussi. Donc, même si vous n'êtes pas baptisé, vous pouvez, par exemple, aller voir un prêtre, vous pouvez le faire soit chez vous, mais vous pouvez aller voir un prêtre et dire au prêtre, je ne suis pas baptisé, mais je souhaiterais demander pardon pour mes péchés. Donc vous demandez pardon, moi j'ai vécu avec quelques-uns d'entre vous, et à la fin, au lieu d'avoir l'absolution, c'est-à-dire ce que fait le prêtre pour un baptisé qui a demandé pardon, on va prier ensemble, on va dire, bah, Seigneur, je te demande pour un tel la grâce du pardon de ses péchés. Ça répond à ce que...
Oui, je vous remercie.
Voilà. J'ai d'autres questions ou pas? Vous êtes sympa, c'est cool. On va se confier au Seigneur, et puis confier chacun vos. Notamment ceux qui, samedi ou dimanche, sont confirmés. Il y en a quelques-uns parmi nous. Que le Seigneur les bénisse à fond et leur donne le feu de l'Esprit Saint. N'hésitez pas du coup à aller vous confesser avant de. Là, souvent, c'est une règle qu'on donne avant chaque sacrement important. Vous voyez, là, par exemple, qu'on accompagne au mariage, tout ça, avant, c'est chouette de vivre le sacrement de la confession avant. Ça va ?
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur, merci pour le cadeau de l'Eucharistie. Merci de nous faire avancer chacun vers toi. Je te confie chacune de nos vies, chacune de nos situations. Je te confie tous ceux qui seront confirmés ce week-end. À leur donner le feu de l'Esprit Saint. Demande-nous aussi d'être toujours plus ton corps, les membres de ton corps, ceux qui portent ta présence réelle dans le monde, dans nos jobs, dans nos familles. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen. Et n'oubliez pas dimanche Pentecôte, hein.